Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est un plaisir d'être là avec vous. Puis avant de commencer, quelques mots de salutation de l'église baptiste de Joinville. Alors c'est vrai, c'est pas la porte à côté, c'est l'est de Paris, mais nous sommes la même grande famille, diverse, variée, c'est vrai, mais vivant sous le drapeau du même Seigneur, le sang de Christ, et avançant, vaille que vaille parfois, dans les histoires de nos églises, mais avançant quand même. Donc voilà, l'église baptiste de Joinville vous salue, et je suis sûre que, avant de partir, vous allez vous aussi me transmettre vos salutations bien fraîche, des vallons, je dis pas montagne parce que hier Christophe m'a un petit peu secoué le cocotier en me disant c'est pas des montagnes ici. Ok, d'accord. Les vallées du Doubs. On est encore dans le Doubs ici ou c'est le Jura? Ok, moi et ma géographie c'est pas ça. Hein. Toutes mes excuses aussi de ce côté-là, je patauge un petit peu. Alors j'avais oublié que c'était la fête de mère. Toutes mes excuses encore une fois. J'ai l'impression ces derniers temps d'être un petit peu à côté de certaines plaques et j'aime bien être à côté de la plaque. Parce que très souvent, quand on est dans la plaque, eh bien, on se rend pas compte qu'on est enfermé. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Éviter le mal, c'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Éviter le mal plutôt que ce qui a l'apparence du mal. Dans les années 60 à 90, en Europe centrale, les femmes aux oreilles percées n'avaient pas le droit de prendre la scène. Ouais. Parce que c'était un signe d'esclavage. Alors imaginez, quand une femme se convertissait, arrivée à la foi, elle avait les oreilles percées, jamais le droit de prendre la scène. Chez nous, chez les baptistes, de nombreux missionnaires américains étaient choqués quand ils arrivaient en France et qu'ils voyaient des bouteilles d'alcool sur la table des agapes. Choqués vraiment. Quand j'étais pasteur à Annecy, nous étions logés, entre guillemets, par une très grosse église adventiste et un jour, on a fait une agape, une grosse agape, parce qu'il y avait un gros événement à fêter par rapport à l'histoire de la vie de l'église. Et on a oublié de ranger une bouteille. Aïe, 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 ce fut chaud à régler. Au siècle passé, et malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, l'annonce de l'Évangile était invariablement suivie d'une multitude d'obligations censées maintenir l'état du croyant dans la pureté nécessaire à la piété. Voilà, on déposait devant les gens une plaque. Ça, tu dois être ça. Tu dois croire ça, tu dois vivre ça pour être un bon chrétien fidèle. Notre texte du jour propose une réflexion fondamentale sur la foi chrétienne, sur son essence et son prolongement, qui questionne le comportement que nous avons à adopter en tant que chrétiens. Alors, les femmes qui étaient là hier, elles vont reconnaître certains points. Je vous avais prévenu, c'est un prolongement sans être, voilà, j'aborde le même thème, mais par un angle différent. Comprendre l'essence du christianisme est fondamental, tout particulièrement lorsqu'on souhaite vivre sa vie de foi ouvertement, en témoignant au plus grand nombre. D'où une question centrale. Hormis la personne du Christ, la personne de Jésus, sa nature, son rôle, qu'est-ce qui différencie la piété dans le christianisme, de la piété dans le judaïsme, par exemple. Un chercheur contemporain, je vous cite ici un écrit de Antoine Nuis, c'est un pasteur théologien EPUDF, Église protestante unie de France, que j'aime beaucoup. Je vous ai prévenu, je suis un peu à côté de la plaque. Il dit ceci, un chercheur contemporain, le rabbin Steinsaltz, s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles on ne parle pas ou très peu de Jésus dans la littérature rabbinique. Sa conclusion est la suivante. Il y a très peu d'idées qui figurent dans les évangiles et qui ne figuraient pas dans les textes juifs. Ça peut être surprenant pour nous aujourd'hui, hein. Je continue la citation d'Antoine Nuis. La bonne nouvelle des évangiles n'a pas laissé d'empreinte dans la littérature juive pour la bonne raison qu'il n'y avait pas là quelque chose d'inconnu pour eux. Incroyable, hein ? Le passage de l'évangile de Marc qu'on va lire, on va lire Marc 7, contient l'une de ces idées, à mon sens, centrale. Marc 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. Horreur ! Enfer et damnation ! Bon, là, je rajoute ma couleur à moi. Hein. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Il y a encore beaucoup d'autres traditions auxquelles ils sont attachés, comme le lavage des coupes, des cruches, des plats. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent donc « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et là, Jésus ne mâche pas ses mots. Il répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. » Car il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. » Pardon. Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou par sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il dit « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole énigmatique. On va en reparler de ce « énigmatique ». Il leur dit, vous aussi, vous êtes sans intelligence, ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur, car cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis, cela s'en va dans la fosse. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Jusqu'ici, notre lecture. L'univers religieux du judaïsme, nous le savons, était organisé autour de la grande distinction entre le pur et l'impur. Des hommes étaient purs, ou plutôt des êtres humains étaient purs et des êtres humains étaient impurs selon leur métier ou selon leurs activités. Les femmes étaient impures selon leur période de menstruation. Les chaises sur lesquelles elles s'asseyaient, j'en ai fait mention hier, les chaises sur lesquelles elles s'asseyaient lorsqu'elles étaient en période de menstruation devenaient impures. L'impureté de la femme se contaminait à la chaise et si un homme s'asseyait sur la chaise, il était lui aussi impur, contagion de l'impureté. Et les grandes sources d'impureté, c'était celles qui étaient liées à la mort, à la maladie, tout particulièrement aux maladies de peau, à la sexualité, et puis, de façon très quotidienne, très concrète, les interdits alimentaire. C'était un marqueur auquel les sociétés se référaient pour identifier les croyances et distinguer les croyants. C'est une question très importante dans le texte biblique. Un théologien actuel, Claude Prudhomme, dit « Dis-moi ce que tu ne manges pas et je te dirai qui tu es ». Pour le judaïsme, le manger et le boire étaient un fil rouge essentiel à la compréhension du sens global du récit biblique. Pensez au premier chapitre de la Bible. Tu ne mangeras pas. Dès le début, le premier commandement, la première parole, tu ne mangeras pas certaines choses. Tu peux manger librement de tout. Mais là, dans la manducation, il y a une limite. Pensez au dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22. On retrouve la même thématique. L'être humain mangera de nouveau de l'arbre de la vie. L'arbre produira du fruit en abondance, 12 mois par an, et les nations en mangeront pour leur guérison. Du premier chapitre, ou plutôt du deuxième chapitre, pardon, chapitre 2, Genèse 2, au dernier chapitre de l'Apocalypse, on mange. C'est bon ça, hein? Ou pas? On mange pas, on mange. Entre ces deux extrémités, les repas sont présents d'une façon plus ou moins appuyée à toutes les étapes importantes de la Bible. Tout à l'heure, nous allons prendre la scène, et ça vient d'où la scène, on le sait, ça vient de la Pâque juive, la libération du peuple des Juifs d'Égypte. Le service dans le temple était lui aussi encadré d'interdits alimentaires, et même la parole prophétique devient un livre à manger, un rouleau, dans Ézéchiel 3. La recherche de la sagesse, un festin à préparer, Proverbe 9. Autant dire que manger et boire ne sont pas des actes anodins, puisque dès le point de départ, le régime alimentaire, dans la Bible, est un art de vivre. Ce que je mange, ce que je ne mange pas, me définit. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, dit, vous avez compris, hein, j'aime bien les philosophes, je sais, je suis un petit peu à côté de la plaque. Dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre dit « Manger, c'est s'approprier par destruction ». Peut-être pas pour rien qu'en Genèse 2, il y a des choses à pas manger. Il y a d'innombrables parallèles à faire aussi avec les paroles du Christ. En Jean 6, par exemple, « Je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. » On mange. En croyant, en adhérant à la parole du Christ, on mange d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, les pharisiens, qui ont trouvé ça absolument aberrant. La puissance symbolique des prescriptions alimentaires était susceptible de déclencher des passions. Ça l'est toujours pour certains milieux religieux. Pensez à l'islam. Le manger et le boire qui définit la foi et la croyance. Le bon musulman est celui qui mange à certains temps et ne mange pas à d'autres. Alors qu'en est-il pour le chrétien ? Eh bien, le christianisme se distingue dans le Nouveau Testament en rejetant totalement les interdits alimentaires. Cela n'est plus au cœur de la foi. Cela ne nous définit plus. Hormis le fait de manger ce pain de vie qui vient du ciel. Il y a une forme de spiritualisation de se manger. Et du coup, à cause de cette spiritualisation, à travers cette spiritualisation de l'acte de manger, eh bien, tout le reste de ces actes n'importe plus. On n'est plus obligé de se priver de manger du boudin. J'aime le boudin. Pardon, je suis alsacienne. Donc, on mange beaucoup de choses, de la cochonaille, comme on dit, hein, chez nous. Qui, si les interdits alimentaires avaient perduré, auraient été interdites et auraient fait de moi une mauvaise chrétienne. Composées de croyants issus du judaïsme, les premières communautés sont confrontées à la question du respect de ces traditions, les traditions de la société dont elles sont issues, et elles trouvent la réponse dans ces paroles de Jésus qui dit « Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui, pénétrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le souille. » Et Marc commente cette affirmation pour lever toute ambiguïté. Il déclarait pur tous les aliments. Mais le récit des Actes des Apôtres rapporte que la communauté chrétienne s'est affrontée dès le début à des tendances opposées par rapport aux interdits alimentaires juifs. Et il y a un conflit qui éclate. Vous connaissez votre Bible également, en acte 11, dans cette histoire où Pierre accepte de manger chez Corneille, un centurion romain, et puis après on le lui reproche. Pourquoi es-tu rentré chez les incirconcis et as-tu mangé avec eux? Acte 11, verset 3. Et Pierre leur répond, « Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. » C'est comme si quelque part ce que Jésus dit, ça n'a pas suffi. Il faut que Dieu nous montre à nous, à moi. Et il raconte la vision qu'il a eue avant de prendre cette décision, l'histoire de la nappe qui descend du ciel. Et le texte souligne la répulsion de l'apôtre face à cette idée. Je ne peux pas manger quelque chose de souillé. Plusieurs fois, la vision se répète trois fois. Et même lorsque par trois fois, la voix qui lui parlait affirme ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le déclarer impur. Le texte d'acte 10 continue, acte 11, pardon, continue à nous dire que Pierre est perplexe. Il se demandait ce que cette vision signifiait. Un peu comme les disciples qui trouvent que franchement, Jésus, quand il parle parfois, il est pigrement énigmatique. Plus tard, une réunion des apôtres à Jérusalem aboutit à un compromis. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci et qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes, vous ferez bien de vous en garder. Acte 15. L'apôtre Paul va aller au bout de ce raisonnement. On voit dans tout le Nouveau Testament comment le raisonnement évolue. Avance par paliers de compréhension spirituelle successive. Le juif converti Paul considère que les quelques restrictions qui ont été maintenues par la réunion de Jérusalem sont anachroniques. Il demande aux destinataires de ces lettres de se considérer comme dégagés de tout interdit, sauf dans le cas, il met une barrière. Et c'est à cela que je veux arriver aujourd'hui. Sauf dans le cas où leur comportement pourrait être cause de scandale et apparaître à quelqu'un, à un frère, une sœur dans la foi, comme une provocation. Il écrit aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens 8, verset 8, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Et suit une série de conseils sur la manière de se comporter au quotidien. Tout ce qui vend se vend au marché. 1 Corinthiens 10, versets 25 à 30. Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de questions par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qui la remplit. Si quelqu'un fidèle vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, voilà la restriction, voilà la limitation, voilà notre place. Voilà ce à quoi nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons être sensibles. Notre plaque. Si quelqu'un vous dit, ceci a été immolé en sacrifice, n'en mangez pas. À cause de celui qui vous a prévenu et par motif de conscience. Par conscience, j'entends non la vôtre, mais celle d'autrui. Car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère? Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Paul permet de manger de la viande immolée aux idoles parce que nous savons, dit-il, qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu que le Dieu unique. Mais il demande de s'en abstenir devant une personne qu'il qualifie de faible. C'est cette fameuse question des faibles et des forts dans la foi. Si une personne est convaincue qu'il est interdit de manger de la viande immolée aux idoles, je n'ai pas le droit de la scandaliser. Parce que pour Paul, la connaissance enfle et l'amour édifie. C'est pourquoi, dit-il, si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais. Vegan avant l'heure. Le seul critère à retenir pour décider en son âme et conscience s'il est convenable de faire quelque chose, ici de manger, mais attention, on va passer à un autre sujet tout à l'heure, c'est l'amour pour le frère, pour la sœur pour lequel Christ est mort. L'amour que j'ai pour Dieu passe par la restriction volontaire de ma liberté chrétienne pour ne pas être une occasion de chute. Pour le frère qui n'a pas encore saisi, comme moi, toutes les implications de l'œuvre du Christ. J'en ai parlé hier. Cette abrogation des interdits dans le christianisme va de pair avec une nouvelle conception de la sainteté. Totalement déconnectée de la notion du pur et de l'impur, totalement déconnectée aussi de la notion du péché. J'ai dit hier, j'ai lancé une bombe comme ça. C'est la seule que je vais lancer aujourd'hui. J'ai dit hier que le péché ne nous sépare plus de Dieu. Oh, t'es pasteur, le péché ne nous sépare plus de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est de ne pas croire. Relisez la première lettre de Jean. Alors qu'en est-il de nos traditions? Qu'en est-il des habitudes qui existent dans chacune de nos structures? De nos institutions, de nos églises? Si tout à coup, si vous êtes habitué depuis 50 ans, je ne sais pas depuis combien de temps cette église existe, 60, il me semblait bien que 50 c'était il y a un certain temps, 60 ans, si depuis 60 ans vous êtes habitué à ce que la scène se passe toujours comme ça, et que tout à coup, le conseil décide qu'on va changer. Comment allez-vous réagir? Jésus met en opposition les traditions humaines. Et nos églises, mes frères et sœurs, sont bardées de traditions humaines. Quand on va dans une autre famille d'église, on dit « Oh là là, cette liturgie à l'EPUDF ou chez les luthériens, oh là là, ces cathos avec leurs trucs là, leur salamalek, leur « Oh là 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 là, je ne sens pas la présence de Dieu dans ces… » Pourquoi ? Tradition. Parce que vous êtes habitués à une manière de vivre la présence de Dieu et de recevoir sa présence. Rien de plus, mes frères et sœurs. Un jour… Ma sœur est née, catho, je viens d'une famille catho, qui a passé 15 ans de sa vie chez les dominicaines. Catho jusqu'au bout, hein, ma famille. Une sœur, sœur Marie-Patricia, dominicaine, à Mézéral, dans les montagnes, les collines vosgiennes, qui me dit, Joël, toi et ton salamalek évangélique, là, viens un petit peu chez moi dans mon couvent. Alors les dominicains, vous savez, ce sont pas des gens enfermés, il y avait une maison d'accueil et j'y suis allée. Toute jeune convertie, sortie de mon catholicisme dans une église de Pentecôte bien… Ah mince alors, ce fut dur. Ce fut très très dur, mes frères et sœurs. Parce qu'au bout de quelques années, on acquiert une sensibilité spirituelle qui nous rend incapables de saisir la présence de Dieu dans un autre cadre. Tradition humaine. Et alors, on va voir le frère, la sœur, et on lui dit, très pétri. C'est ce que j'ai fait avec ma sœur. C'est pour ça que je sais que vous l'avez certainement aussi fait une ou deux fois. Parce que vous et moi, on est pareil. Je vais voir ma sœur aînée, Patricia, que j'aime beaucoup. Et je lui dis, non mais Patricia, il faut que je te dise, passer comme ça des heures en silence devant Dieu, c'est pas sa volonté. Dieu veut qu'on lui parle. Et moi, j'entends Dieu. Est-ce que toi, tu entends Dieu? J'ai passé un temps fou à baratiner ma sœur aînée et à lui faire un topo sur ce que devait être un bon chrétien. Et pour moi, elle était, je la reconnaissais comme croyante d'une certaine manière, mais elle était tellement faible dans la foi. Moi, j'étais forte. De mon expérience de conversion. Tradition humaine. Jésus met en opposition nos traditions avec la profondeur du cœur de Dieu. Et pour nous, ça reste énigmatique parce que nous sommes aveugles à nos traditions. Il y a quelques jours est sorti sur les réseaux sociaux l'annonce que lors de la prochaine assemblée du désert, qui a lieu tous les premiers samedi du mois de septembre, l'Assemblée du désert, c'est une grande rencontre annuelle de tous les pasteurs de l'EPUDF, donc toujours l'Église protestante unie de France. J'en parle beaucoup parce que c'est important que vous compreniez ce qui se passe. Alors aujourd'hui, je prends l'EPUDF, mais je pourrais prendre les catholiques, par exemple, c'est pareil. Et l'Église protestante unie des France, qui est donc membre de la Fédération protestante de France, comme nous, les baptistes, va célébrer les 500 ans de l'anabaptisme. L'anabaptisme, c'est ce qu'on appelle la réforme radicale, la dernière grande réforme qui a suivi les réformes calvinistes, luthériennes, etc. Réforme radicale. C'est nous qui sommes issus de ce mouvement-là des anabaptistes. Et donc, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, va ouvrir la journée. Ensuite, il va y avoir Sébastien Fatt, grand théologien, chercheur baptiste. Cocorico, nous sommes tous très fiers de l'avoir. Et puis ensuite, Neil Blow, un pasteur et professeur ménonite. Et puis, une petite pasteur baptiste, votre servante, qui va clore la journée avec la prédication de clôture. Donc tout ça, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Et puis, un nombre incroyable de frères et sœurs. Je dis bien, hein, frères et sœurs. Je dis que ce sont des frères et sœurs. Ont répondu en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Nous, protestants, on va parler des évangéliques pendant une journée. Tout est public hein, sur les réseaux sociaux, page Facebook. Jamais je n'irai. Et on y va avec les diatribes. Si moi, petit évangélique, imbu de moi-même, enflé de la connaissance de ma propre expérience, j'ai humilié ma sœur aînée, qui était dominicaine. D'un autre côté, mes frères et sœurs dans la foi de ces églises EPUDF, forts eux-mêmes de leur propre connaissance différente de la mienne, se mettent à leur tour à humilier les évangéliques. Mes frères et sœurs, ça, c'est l'Église chrétienne aujourd'hui et c'est dramatique. Parce que ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que le fort ne doit pas mépriser le faible. Et on est tous forts dans quelque chose. L'EPUDF est fort, a des forces magnifiques. Les catholiques, eh oui, vous allez lui dire peut-être sortez les pierres. Les catholiques ont des forces magnifiques, des années, des siècles d'auteurs qui ont creusé. Oh, ils ont des faiblesses dramatiques. Tout comme les PDF, des faiblesses dramatiques qui portent des fruits amers dans la vie d'un grand nombre de personnes. Et nous avons des forces magnifiques. Et nos faiblesses à nous, qui les voit? Mes frères et sœurs, dans ces temps qui sont les derniers, apprenons à vivre ce que Jésus dit et ce que l'apôtre Paul continue. Que le fort ne méprise pas le faible et que le faible ne juge pas le fort dans sa liberté. Dieu est un Dieu qui offense, qui nous offense, qui vient pour nous offenser lorsque nous sommes enfermés dans nos traditions parce qu'il veut nous libérer. Mais pour cela, nous devons apprendre à grandir, à mûrir dans la foi. Sais-tu que les pharisiens ont été très offensés par tes paroles ? Disent les disciples dans le passage de l'évangile de Matthieu qui est parallèle à notre texte. Sais-tu que les pharisiens ont été très offensés ? Jésus ne semait pas le trouble pour le plaisir de semer le trouble. Dans d'autres discussions, il dit même en Matthieu 17, les versets 24 à 27, lorsqu'on lui parle des impôts, il réalise le miracle de la pièce d'argent dans la gueule du poisson pour aller payer l'impôt du temple, bien qu'il estime ne pas avoir à le faire, et il dit « ne semons pas le trouble chez ces gens ». Il ne semait pas le trouble pour semer le trouble. Mais par contre, quand on touchait à l'essence du royaume de Dieu, de ce pourquoi il est venu sur la terre, là, il était trash, comme j'aime à dire. Tous, nous désirons plaire à Dieu. Et pour cela, nous cherchons tous à nous abstenir du mal. C'est juste. C'est ce que l'apôtre Paul nous demande en 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Mais parfois, nous confondons le mal avec notre idéal de la pureté, de la piété. que l'Esprit-Saint puisse nous apprendre. C'est la racine du mot « disciple », celui qui apprend. Et apprendre, c'est douloureux. Apprendre, c'est douloureux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, que vous appreniez à faire du vélo. Il fallait sortir les sparadraps pour les genoux. C'est pareil quand on est dans cette question-là. Chaque culture nationale, familiale, ecclésiale, construit ses propres conceptions du bien et du mal. Et notre rôle de chrétien, c'est de secouer ces conceptions pour vérifier si ce que nous faisons, si ce que nous disons, si ce que nous acceptons ou rejetons est de l'ordre de notre culture ou de l'ordre de l'Évangile. Nous sommes devant un appel, un double appel difficile à mettre en œuvre. D'un côté, nous sommes invités à ne pas être une occasion de chute pour le frère, la sœur faible dans la foi, pour qui telle pratique est essentielle, le manger, le boire, et d'autres aujourd'hui, parce que ce frère, cette sœur reste attaché aux traditions et elle craint, il craint de déshonorer Dieu en abandonnant ses traditions, de devenir impur s'il ne pratique pas cette chose essentielle à ses yeux. Et puis d'un autre côté, nous ne devons pas céder devant celui qui s'attribue à lui-même le rôle de gardien de la vertu, en criant au scandale devant l'évangile de la grâce. C'est parce que c'est toute l'œuvre du Christ qui est en jeu ici. Alors, je vous laisse avec ça. Je me dis que c'est peut-être pas un beau cadeau. C'est compliqué à vivre. Et c'est pour ça que c'est important, essentiel de rappeler à chacun que quel que soit le nombre d'années de votre conversion, moi je suis convertie, je mets toujours des convertie depuis 43 ans et j'apprends encore à aimer véritablement le frère, la sœur dans la foi qui fait une différence entre les jours, par exemple, les adventistes. J'apprends à aimer pleinement le frère, la sœur luthérien. Même quand je vois le pasteur arriver avec son aube blanche, parce que ça me rappelle mon enfance catholique, et j'ai un truc là qui monte. Et puis le frère et la sœur EPUDF, cette église franchement abominable qui, en 2015, a accepté le mariage des personnes de même sexe. Alors on rentre dans ces lieux. On se dit, attention, je mets les pieds parce que je risque d'être contaminé. Non, mes frères et sœurs, vous ne serez pas contaminés par le péché des autres. Depuis, et je l'ai dit aussi hier, mais c'est quelque chose, quand je l'ai réalisé, ça a profondément transformé ma capacité à dépasser les traditions. Lorsque Christ est mort sur la croix, le voile a été déchiré. Et je vais m'arrêter là-dessus. Le voile a été déchiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde répond, oh ben on peut entrer dans la présence de Dieu. Oui, mais ce n'est pas la première des choses qui s'est passée. La première des choses qui s'est passée, c'est que l'Esprit Saint est sorti. Des morts ont ressuscité. Tonton Élie, qui venait de mourir la semaine dernière, est allé frapper à la porte de son neveu, le rabbin Schmoltz, qui en ouvrant la porte voit son neveu. Ah, il est pur, il est impur, c'est un mort vivant, c'est un vivant mort, c'est quoi? C'est un zombie? L'Esprit Saint est sorti, le péché n'est plus contagieux, c'est la sainteté qui est contagieuse. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est ce que le Christ essaye de faire comprendre à ses disciples. Alors prions. Seigneur, tu es venu pour briser les barrières qui empêchaient des hommes et des femmes désireux de s'avancer vers Dieu, de s'approcher sereinement de lui. Mais tu es aussi venu pour détruire les barrières que les humains construisaient entre eux, les lieux de sécurité qu'ils se construisaient à eux-mêmes. Je fais ceci, donc je suis bien. Et pour se différencier des autres, tu fais ceci, alors tu n'es pas bien. Seigneur, toutes ces choses-là disparaissent parce que tu es venu manifester la réalité de Dieu. Ce Dieu qui est si grand, si puissant, que tout notre univers a été créé par lui et dépend de lui aujourd'hui. Si grand et si puissant qu'il a pu venir sur terre comme un vivant. Quelle gloire, Seigneur. Apprends-nous Nous qui sommes tes enfants, tes disciples, nous qui voulons apprendre de toi, apprends-nous à discerner tout ce qui est de l'ordre de la culture dans nos vies, des habitudes de vie qui sont contraires à ta parole, à ta volonté et qui nous séparent les uns des autres. Apprends-nous à gérer cette histoire de faible et de fort en étant humble. Apprends-nous à regarder dans nos propres traditions d'Église tout ce qui n'est pas à ta gloire et à nous reconnaître faibles là-dedans. Apprends-nous à avoir le même regard sur les autres traditions qui, oui, ont des faiblesses, des manques, mais qui ont aussi tellement de beauté que tu as déposé en eux. Apprends-nous cela, Seigneur. Nous sommes si imparfaits, si fragiles, si défaillants dans tant de domaines. Et pourtant, tu nous aimes. Alors viens, Seigneur, nous apprendre à nous défaire de notre culture nationale, familiale, ecclésiale, lorsqu'elle est en opposition à ta volonté, à ton cœur de Père. Apprends-nous à nous revêtir de ton royaume. Ensemble, nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Amen.